Il n'y a pas que l'informatique dans la vie, y compris dans la vie de Xavier Delaporte. Il y a aussi l'esthétique, même si elle occupe quand même une petite place. Mais enfin, vous avez eu une révélation.
Oh, ta mère,
Xavier Delaporte.
Mais Guillaume, qu'est-ce que c'est que ça dire d'autre là. C'est vraiment gratuit.
Vous en parlez peu, mais vous avez la possibilité d'en parler là. Parlez-nous de votre révélation esthétique.
Récemment,
Xavier Delaporte.
Guillaume Erner, très méchant être, en visite au Rijksmuseum d'Amsterdam. Et ça m'arrive. Par hasard, je pensais aller voir un match de foot et je suis tombé au Rijksmuseum. Je suis allé, comme de rigueur, parcourir le hall d'honneur où se trouvent quelques chefs-d'œuvre de la peinture flamande. Et là, je tombe en arrêt devant un très beau tableau. Je le regarde en détail, il s'agit d'un intérieur d'Amsterdam. On reconnaît un canal par la fenêtre et la porte ouverte. Sur le seuil de la porte, une petite fille tient une ficelle. Au bout d'un bâton, assise près de la fenêtre, une bourgeoise hollandaise tend une main. Et au premier plan, à droite du tableau, un homme est là, chapeau à la main, et il regarde son téléphone. Je lis le cartel, le tableau est signé Pieter de Hoogh, il date de 1670 et il s'intitule « Un homme tendant une lettre à une dame ». Et là, soudain, je comprends que ce que j'ai pris pour un téléphone donc n'en était pas un. J'aurais pu m'en douter, le diriez-vous. Ce que regarde l'homme, c'est la lettre qu'il va tendre à la dame, comme s'il lisait bien le nom de la destinatrice pour s'en assurer. Ma première réaction a été évidemment l'effroi. Mon Dieu, me suis-je dit, suis-je aliéné au point que dans une galerie dédiée à la peinture flamande du XVIIe siècle, je trouve normal de voir un personnage qui a un portable à la main. Mais c'est odieux, suis-je affligé d'une perception anachronique qui projette sur tout réel le calque du contemporain? Je parle comme ça dans ma tête. Suis-je condamné à ne plus voir...
Je fais pas de commentaires, parce qu'après vous allez dire que je suis malveillant.
Suis-je condamné à ne plus voir partout que des téléphones, des ordinateurs ou des écrans, même dans des tableaux du XVIIe? Quelle horreur, quelle déformation, nous sommes perdus. Bon, depuis je me suis aperçu que Tim Cook, le patron d'Apple, avait été victime de la même illusion devant ce même tableau. C'est pas bon signe ça. Mais très vite, cette déploration quasi élégiaque a été interrompue par ce que je n'ai pas peur d'appeler une fulgurance, Guillaume. Non, ce n'est pas complètement de ma faute. Si j'ai pu être trompé, c'est qu'il y a une similarité frappante de posture entre ce tableau et un autre. Et je me suis rappelé un très beau tableau du peintre Thomas Levillan, jeune peintre dont je vous ai déjà parlé. Un des tableaux de Levillan représente un homme d'aujourd'hui qui est debout et qui regarde son téléphone. Même si l'angle de vue n'est pas le même que dans le tableau de Pieter de Hoogh, il y a quelque chose de très ressemblant dans les postures, un coude plié, une tête penchée sur ce que tient la main. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Et là, je me suis mis à regarder avec plus d'attention dans le musée les tableaux représentant des gens qui lisent ou écrivent des lettres. Et puis en rentrant chez moi, j'ai fouillé un peu dans l'histoire de la peinture. Au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, beaucoup de tableaux évidemment représentent des personnages qui lisent des lettres. C'est frappant, mais pourquoi? Alors je ne suis pas historien de l'art, mais il me semble qu'on peut avancer plusieurs hypothèses. La première est évidemment pratique. Comme de faire lire un livre à son modèle, le peindre en train de lire une lettre est un bon moyen d'obtenir qu'il bouge peu. Bon. Mais la seconde hypothèse, qui n'est pas exclusive de la première, est d'un ordre plus directement esthétique. Autant que je puisse en juger, les personnages de la peinture qui lisent des lettres n'ont pas la même posture que ceux qui lisent des livres. D'abord, ils peuvent les tenir debout et pas simplement assis comme pour les livres. Ensuite, il y a quelque chose en eux de plus absorbé, de plus tendu, peut-être parce que c'est plus court, plus urgent la lecture d'une lettre. Et donc, il y a quelque chose là qui est intéressant du point de vue pictural. Il y a une forme de dramatisation par la simple posture physique. En ça, il y a donc quelque chose qui ressemble à notre rapport au téléphone. Et autre caractéristique qui rapproche les deux situations, et en fait des situations intéressantes à représenter d'un point de vue narratif, c'est le jeu sur le visible et l'invisible. Car on voit quelqu'un regarder et réagir à quelque chose qu'on ne voit pas en tant que spectateur. Ce que lit le spectateur, c'est donc l'expression du visage d'un personnage qui lit ou écrit une lettre. Il n'a que ça pour deviner ce qui se joue. Qu'attend cette dame de la peinture de Dehors qui tend la main pour recevoir des lettres? Des nouvelles de sa famille, de son mari, de son amant? Et j'ai compris alors pourquoi j'aimais autant regarder les visages des gens qui regardent leur téléphone. C'est le même drame qui se joue. La dernière hypothèse qui explique la récurrence du motif de la lettre, c'est l'importance que prend la correspondance dans la vie de nos aïeux au XVIIe et au XVIIIe siècle, pour des raisons qui tiennent à la fois à une alphabétisation qui progresse, mais aussi à l'essor de la poste. Or, on sait que cette place de la correspondance était aussi un problème. Beaucoup à cette époque se sont plaints d'être ensevelis sous la correspondance, de subir l'injonction qu'il y avait à lire et à répondre. Il est donc tout à fait possible que ce que nous regardons aujourd'hui comme une jolie chose romantique ait été autre chose pour eux. Une situation du quotidien qui ressemble fort à celle que nous vivons aujourd'hui avec nos téléphones. Alors, me suis-je dit, et j'en arrive à ma révélation, il y aura un jour où cette posture si contemporaine et que certains aiment tant décrier, c'est-à-dire nous pencher sur nos téléphones abstraits du monde, sera regardée comme nous regardons ces tableaux. Un petit drame du quotidien dont on est heureux que des artistes les aient trouvés suffisamment beaux pour être présentés.